décor dans le décor, décor en délit, dans délit.
Délit à l'instant avec ce remix de Samba de la Merté que vous connaissez. Vous connaissez également donc bien la version originale de ce titre proposé par Yolande Bashing. Un titre qui tourne sur les ondes du 89 depuis quelques temps tout de même, effectivement, puisque je crois que c'est l'une des dernières sorties de Yolande Bashing que l'on diffuse. Il y a également ce single qui est arrivé il y a peu à travers donc le sampler de ce très bon label Bruit Blanc, à travers un titre qui se nomme de mémoire La Cité. C'est ça, Yolande ?
Tout à fait,
Tu vois, je l'ai diffusé, je crois, une ou deux fois. Et okay. Mais par contre, si j'ai retenu ce titre, c'est parce que j'aime beaucoup, et je tiens à te le dire, je suis extrêmement fan de ton travail depuis pas mal de temps.
Okay.
Et j'aime en tous les cas la façon dont tu as de jouer avec les mots, et c'est le cas aussi sur le titre La Cité, où en tous les cas, j'ai l'impression que ton écriture ressemble à une écriture musicale, à savoir que les mots doivent résonner, tu joues avec les mots, il y a ces boucles qui se forment au fur et à mesure.
Ouais.
Bref, c'est quoi ta passion avec les mots ?
Et ben, en fait, c'est que je suis pas très bon musicien, et du coup, un peu par défaut, je me suis rabattu sur les mots, parce que je suis comédien de formation, en fait, si tu veux, du coup, les mots, c'est un peu mon travail aussi, je passe beaucoup de temps en réciter, des mots qui m'appartiennent pas. Et justement, avec Yolande, c'est un peu l'occasion d'écrire les miens et puis d'en faire des sortes de mantras. Vous savez, il y a beaucoup de mes chansons qui sont basées sur des textes un peu répétitifs.
Complètement, oui.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, ça m'intéresse, ça m'interroge en même temps à quel point on peut aussi déformer les mots et qu'ils puissent devenir... pardon, je suis fatigué. on sort de 5 jours de tournée.
Oui.
Qu'ils puissent devenir rythmiques et qu'ils puissent devenir musicaux. Et combler un peu ce manque de musicalité que j'ai dans les doigts, même si c'est un peu de mieux en mieux quand même.
Oh oui, oui. Alors, pour les fautes de grammaire, excusez-le, il est du nord de la France, hein, c'est normal.
Non, alors je suis de la Mayenne.
Pardon.
Mais tu peux le dire aussi.
Oui.
Mais ça fait 10 ans que je suis dans le nord. Voilà.
Okay, très bien. Alors, bah, moi je reviens à ton côté. Tu te dis non musicien, alors qu'au contraire, souvent l'écriture, la bonne écriture, va avec le rythme, à savoir qu'un bon bouquin souvent correspond à une écriture qui a son rythme, qui est propre à soi et qui justement entraîne la personne qui lit, le lecteur donc, ou la lectrice, dans ce rythme-là. Et souvent, la musicalité fait partie de l'écriture. Donc, tu n'es pas un si mauvais musicien que ça, je pense.
Eh bien, si tu le dis, merci beaucoup.
Une passion, en tous les cas, qui a commencé seule. Moi, j'ai vu dernièrement, je crois que c'était pendant le confinement, où j'ai diffusé pas mal de Boiler Merde. Mmh. Un super principe. Mmh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer on connaît la Boiler Room. Peu de gens connaissent peut-être la Boiler Merde. Il y a moins grand succès sur YouTube. Est-ce que tu peux expliquer le principe ?
La Boiler Merde, en fait, je vais expliquer avec un peu ce que j'en sais. C'est, c'est plutôt des artistes indés qui vont se diffuser en fait, à travers, je ne sais plus quel asso a lancé ça, mais se diffuser des lives qui ont été faits un peu pendant le confinement, comme ça, un peu à la nique avec des mauvais micros, mais toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, et puis surtout du kiff et du plaisir, quoi. Donc c'est un peu ça, la Boiler Merde.
Et à chaque fois, les artistes se sont placés dans un contexte différent. Toi, je crois, de mémoire, c'était dans une caravane.
Moi, j'ai pas fait vraiment une Boiler Merde.
Ah.
Mais j'ai fait un live de YOLO Machine, qui est un peu le side project Yolande Bashing.
Ah, c'était ça.
Et c'était dans mon jardin,
okay.
Dans ma cour.
Okay.
Mais ça peut ressembler à une caravane, c'est pas très grand, c'est pas large. Tu rentres même pas une caravane dedans, je pense.
Okay.
Et ouais, du coup, l'idée, c'était un peu de diffuser comme ça, d'avoir un peu des trucs à faire aussi. On s'emmerdait, tu vois, en tant qu'artiste. Entre le moment où t'es en studio, chez toi un peu, tu bidouilles des morceaux, et puis voilà, c'était une occasion de boire des coups à la maison avec mes colocs et ma copine, et puis c'était rigolo, quoi.
Ouais, c'était très intéressant, et je vous invite à découvrir ce live. Je vous invite également à aller voir les Boiler Merde. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très intéressants, et il y a aussi cette scène de la chanson française, telle que tu t'inscris dedans, en tous les cas, à travers ce côté très indépendant, très... Alors, j'allais dire un petit peu triste, un petit peu mélancolique, puisque les paroles, effectivement, sont extrêmement lucides, je trouve, par rapport tout simplement au regard que l'on peut avoir sur ce que l'on vit au quotidien. Je pense notamment à des artistes tels que Musique Chienne dans la techno, qui ouais. propose des choses juste incroyables. Il y a aussi un album de Ventre de Biche que je trouve absolument génial. Ouais. Enfin, si tu veux, c'est des artistes. Moi, j'ai toujours été, non pas en galère, mais en recherche pour respecter ces fameux 15% de quota de chansons françaises vers des artistes indépendants qui proposaient des textes ou bien des textures de son ou des choses un peu engagé quoi. Mmh. Et lorsque je suis tombé sur cette scène qui est arrivée à la fin, après 2015, j'ai trouvé ça absolument génial. Mmh. Et comment est-ce que tu l'expliques toi justement cette appropriation de...
Eh ben, je peux l'expliquer peut-être pour moi parce que j'ai pas la prétention de pouvoir l'expliquer pour les autres, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est arrivé avec l'informatique musicale. Tu vois, le fait de pouvoir s'enregistrer aussi facilement chez soi avec même un ordi tout pété, même avec Linux, enfin on peut faire des choses fabuleuses. Avec tout le monde de l'open source aussi, enfin, t'as pas besoin d'avoir Ableton ou Logic Pro pour enregistrer des morceaux. Et les gens sont appropriés ces outils-là, et ils ont commencé à triper. Puis et voilà, puis après, par rapport au français, à la langue utilisée, je me dis aussi qu'il y a. Dans tout ce qu'on peut écouter qui est en français, la chanson était assez peu représentée finalement, à part des trucs vraiment mainstream. Et je pense que les gens ont quand même de l'amour pour cette langue qui est malléable, qui est riche, et puis surtout assez d'amour aussi pour la déstructurer. Et je crois qu'il y a. Enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que je chante en français. Et c'est aussi parce que peut-être comme mes collègues, hein, je parle très mal anglais. Et puis,
il est tout simplement impossible d'exprimer en tous les cas et de comment tu envisages l'expression et le chant à travers ces mots justement, ces répétitions et comment tu joues avec les mots en anglais, c'est juste impossible.
Bah, je pourrais pas me le permettre parce que ça voudrait encore plus rien dire que déjà ce que ça veut rien dire en français.
C'est vrai, c'est pas mal. Alors la raison que tu donnes, c'est aussi l'une des raisons que donnent les femmes pour l'appropriation de la musique électronique, à savoir le fait de se retrouver isolé et de pouvoir faire de la musique chez soi en utilisant certains outils comme ça qui sont très accessibles et assez faciles à manipuler, a donné une ouverture, une porte en tous les cas pour l'expression musicale chez les femmes, et ce depuis pas mal de temps, hein, puisqu'on peut remonter à la musique concrète et aux prémices de la musique électronique où les femmes étaient extrêmement nombreuses, et aujourd'hui on les voit, elles sont vraiment présentes sur cette scène-là en tous les cas, puisqu'il est peut-être plus facile pour elles de s'approprier ce genre de musique que d'être derrière une batterie ou d'être derrière une guitare, de jouer avec un groupe qui est souvent composé de mecs, de tourner avec des mecs et de rencontrer peu de femmes. En tout cas, malheureusement, on sait toutes les problématiques d'aujourd'hui.
Ouais.
Toi, de ton côté, c'est une excellente raison, en tous les cas, de vouloir s'approprier ça. Est-ce qu'il y avait aussi une notion de légitimité à faire de la musique ? Vu que tu m'as expliqué, tu as commencé cette interview en me disant que tu n'étais pas un bon musicien, que du coup, tu écrivais des textes, mais qu'en même temps, tu t'amusais avec chez toi, avec ces instruments-là.
Ouais.
Il a fallu passer un cap pour le proposer aux gens et pour qu'on puisse l'écouter.
La question de la légitimité, je m'en tape un peu, je crois. Enfin, je sais pas, je me dis.
T'as bien raison.
Enfin, y a tellement de gens qui se posent même pas la question. Et si tu te commences à te poser cette question-là, c'est un peu foutu, quoi, parce que ça va biaiser ton travail. Enfin, je crois qu'il faut rester lucide. Que bien sûr, on fera pas à Glastonbury, quoi, mais ou pas.
Je sais pas.
En fait, faut pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est aussi dès l'instant où t'es entouré, t'es accompagné. Moi, pour ma part, c'est le label Bruit Blanc qui m'a vraiment aidé, qui m'a poussé, qui me soutient encore en management notamment, en édition aussi et en label. Je pense que c'est des gens qui t'aident à plus te poser la question de la légitimité et à te dire que eh ben, on est une famille, on peut tous y aller, quoi. On se soutient les uns les autres. Puis j'ai vu tellement des concerts de merde, je me suis dit, franchement, je crois que je peux faire un peu mieux. C'est un peu une blague, mais en vrai, pas trop. Et non, c'est pas une question qui m'intéresse tant que ça, en fait, je crois. Je crois que j'ai juste envie de prendre du plaisir à faire de la musique avec mes copains.
Oui.
Et comme un ado, quoi, comme quand je faisais de la musique dans mon garage quand j'avais 14 ans. Et c'est juste que là, on fait des scènes un peu plus grandes, mais bah voilà quoi.
Alors justement, tu as un ami qui t'accompagne, qui est aux machines avec toi.
Ouais, et à la basse aussi.
Et à la basse. Ça fait combien de temps ? Parce que moi, je l'ai aperçu sur quelques vidéos ces derniers temps.
Ouais.
Mais par contre, je l'ai vu souvent en solo.
Ouais.
Et du coup, comment ça se passe? C'est tout simplement l'envie aussi d'être un petit peu plus libre, de sortir des machines.
Exactement. Aurélien, il s'appelle Aurélien Guénézinoff. Il est dans déjà 15 groupes de musique. Donc c'est difficile de le garder pour soi.
Oui, bien sûr.
Mais ça va, on s'en sort dans son planning. Et Aurélien, il est arrivé il y a un an et demi pour commencer à travailler live avec moi. Mais notre travail a commencé ensemble un peu plus tôt. Il est arrivé sur à un moment pendant la composition de l'album Yolande et l'amour, je rêvais d'une basse sur certains morceaux pour apporter un peu du groove, un peu faire un peu donner un contrepoint, un contre-pied pardon, un peu à aux machines qui peuvent manquer d'organicité des fois. Et du coup, il a participé à l'élaboration de quelques chansons. Qui sont sur le premier album. Et puis après, très vite, je me suis rendu compte que d'une part, effectivement, je me sentais un peu bloqué par toutes ces machines en face de moi en concert. C'était difficile de s'émanciper, d'aller vers les gens, de prendre le plateau, d'aller faire des conneries dans le public. Et puis ça c'est un peu arrivé comme une évidence de dire que ben écoute Aurélien, maintenant tu connais le projet, tu kiffes les chansons. Lui il vient du rock, c'est pas du tout sa musique, ça le faisait vraiment kiffer de venir et puis voilà, maintenant on est trois à tourner du coup parce qu'il y a toujours Emmanuel Cathy qui nous accompagne en technique ou bien Nicolas Chimo, et c'est vachement cool de pouvoir partager ça et à trois quoi, parce que j'en ai fait des tournées tout seul en train et c'est rigolo parce que t'es amené à rencontrer des gens facilement et tout. Mais des fois, en fait, t'es fatigué, t'as aussi envie de te retrouver avec des gens que tu connais et puis de te sentir un peu en sécurité. Enfin, pas en sécurité, non pas que le danger rôde.
Oui, non.
Mais voilà, un peu en famille des
oui,
fois.
Oui, c'est ça, avoir des repères.
Ouais. À la maison.
Mmh. Oui, à la maison, ouais.
Oui, puis pouvoir également partager ces expériences que tu vis avec ces gens-là qui t'accompagnent.
Ouais.
Voilà, une fois que la tournée est finie, que l'on rentre à la maison.
Et puis c'est surtout des regards extérieurs fabuleux. Enfin, ouais. Emmanuel, qui est au son. Lui il les a vus les concerts, il y participe, il envoie beaucoup d'effets, enfin il a la main sur pas mal de choses, c'est un peu le troisième membre du groupe, et quand on est en résidence, quand on travaille ensemble, une fois qu'on arrive avec les morceaux avec Aurélien, il y a toujours un moment un peu de réécriture comme ça où Emmanuel va donner aussi un peu son avis, il va travailler avec nous sur le son, sur les textures, sur les formes des fois des morceaux. Là, il y a une chanson qui s'appelle Les linges sales,
oui.
Qu'on joue depuis longtemps. Et oui. On s'est dit, il manque un truc. Quoi. Elle était bien cette première mouture, et puis là, on voudrait un peu passer à autre chose pour le live. Et puis il a dit, mais les gars, rajoutez de la basse, rendez-la un peu post-punk cette chanson. Il y a une recherche à trois qui se fait comme ça. Et puis c'est pas seulement lui, c'est aussi les gens du label. Je pense à Leïla, je pense à Romain. Qui viennent, qui écoutent les maquettes, qui... Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi.
Ok. Ces fameux hashtags sur lesquels tu as construit ton lit et sur lesquels également tu te sers de cette chanson tout à l'heure pour les balances. Mm. Et c'est là où moi je voulais chanter avec toi, et en l'occurrence je n'ai pas pu puisque tu as réinterprété cette chanson, tu l'as changée par rapport à la version originale comme tu viens de l'expliquer.
Bah parce que j'oublie souvent les paroles en fait.
Oui, c'est ce que je me suis dit, parce que tu t'es trompé en fait pendant les balances.
Je sais, mais...
Là pour te dire.
Je sais que je me suis trompé, enfin je le sais plus.
Oui.
En fait elle change un peu tout le temps en concert les paroles.
C'est cool, très bien.
C'est un peu un manque plutôt qu'une certitude, mais je m'en fous un peu, ça me fait marrer. Et puis c'est marrant de voir les gens qui connaissent les paroles se sentir un peu perturbés.
Complètement, parce que c'est un tube, et tu sais, partager un tube en tous les cas avec un chanteur, avec un groupe que l'on apprécie, il y a ce moment d'intimité, je trouve, de partage qui est essentiel. Mais en même temps, je trouve ça très bien que tu réadaptes et que tu changes en tous les cas, parce que je suis à ta place, je m'imagine effectivement que depuis le temps, c'est aussi lassant de raconter toujours la même chose avec toujours la même forme et les mêmes sentiments.
Pas tant que ça, parce que je pense qu'on peut toujours aller un peu plus loin dans la manière d'interpréter un texte qu'on connaît par cœur, et je crois qu'on peut... On peut toujours prendre du plaisir sur quelque chose qu'on a écrit il y a 15 ans. C'est juste que ça raconte autre chose de nous, qui a un peu changé, mais du coup on a un autre regard, peut-être plus bienveillant, ou peut-être un peu du rejet, mais du coup on peut prendre une certaine dose de... Un peu de recul, et puis se marrer de ce qu'on a écrit, en fait, et puis rigoler avec les gens. Du coup, moi je me lasse pas vraiment de chanter des vieilles chansons. Et je pense qu'il y en aura toujours en live, même si là on en apporte beaucoup de nouvelles qui ne sont pas encore sorties.
Ah, c'était ma question justement pour terminer cette interview, puisque Yand et l'amour 2019.
Ouais, 2019,
oui, voilà.
Ouais.
Depuis l'EP d'Eli.
Le chat d'Eli, c'était 2020, je crois.
Oui, c'est ça. Là, un petit single via le sampler de Bruit Blanc.
Ouais, qui n'est pas sorti vraiment.
Voilà.
Et il y a à peu près, je dirais, 8 chansons un peu qui attendent d'être sorties, là, qui sont en train d'être mixées. Et l'idée, c'est de sortir un double EP album. Avec des guillemets, vous ne voyez pas à la radio, mais là, je fais des trucs avec mes doigts.
Avec les doigts.
Comme E.T. Et il y a un double EP album voilà, qui va sortir à la rentrée, avec des clips, avec beaucoup de choses. Et puis, c'est marrant parce qu'il y a Turfu qui joue ce soir.
Oui.
C'est des copains.
Ouais.
Et on est en train de préparer un petit featuring ensemble. Oh, wow. À base de musette, techno et puis chansons en français. Quoi. Donc voilà, je voulais dire, il ne faut pas leur dire hein, que je l'ai dit. Vous leur direz pas, ça reste entre nous.
C'est un secret, évidemment. Personne ne l'a entendu.
Entre 8 yeux.
Exactement.
Vraiment, je vous fais confiance.
Je ne dis rien.
Faut pas leur dire. Hein.
Sauf s'ils en parlent eux. Hein.
Alors là, ça, je ne sais pas.
Écoute,
moi, je l'avais noté comme question. Je savais qu'ils étaient copains.
D'accord.
J'avais vu ça quelque part sur les internets.
Ouais.
Mais à voir si eux, ils vont le dévoiler.
Bah écoute, c'est toi qui feras l'interview de Turfu, Marine. Hein, donc
chacun ses infos.
T'essaieras de leur tirer les verres du nez. Mais attention, en étant plutôt maline. Bah, merci en tous les cas, Baptiste alias Yolande Bashing, pour ce moment partagé. Et on aura l'occasion donc, de partager la scène avec toi en tant que public et puis toi en tant que, bien entendu, chanteur. Merci beaucoup. Et puis,
merci Bob FM, c'était top.
Impatient de pouvoir donc, bien te retrouver. Marine, est-ce que tu peux me redonner l'ordre des gens que l'on reçoit par la suite de cette émission, juste pour savoir d'un point de vue musical ce que je vais pouvoir proposer aux gens qui nous écoutent?
Et quelle transition, puisque le prochain groupe, c'est Turfu.
Ah bah c'est parfait, regarde, je pense que normalement ils sont juste à côté en train de boire une bière, je commence à bien les connaître.
Je peux aller les chercher hein, si vous voulez.
Avec plaisir, ça fait quelques années que je les fréquente dans des festivals, je sais très bien à peu près comment ils s'occupent.